propose Appel sur l'actualité.
Appel sur l'actualité.
33 9 693 693 70.
Juan Gomez.
L'antenne vous appartient, bienvenue si vous nous rejoignez. Comme tous les jours, RFI vous propose de commenter l'actualité. Dans 30 minutes, nous parlerons de l'immigration clandestine avec en toile de fond ce nouveau drame survenu en Méditerranée dans la nuit de samedi à dimanche. Pour l'instant, le bilan officiel est de 24 morts et de 28 rescapés. Mais à bord du chalutier, il y avait au moins 700 personnes parties de Libye pour gagner l'Italie. Le HCR, le Haut Commissariat pour les réfugiés, redoute la pire hécatombe jamais vu en Méditerranée. Alors, quelle leçon faut-il tirer de ce nouveau drame de l'immigration? Quelle doit être la réponse de l'Europe, qui est une fois de plus pointée du doigt pour son incapacité à éviter de telles tragédies? Comment endiguer l'immigration clandestine? Vos réactions, évidemment, au standard 33 9 693 693 70 09 693 693 70 si vous nous appelez de France, et vous continuez à réagir sur les réseaux sociaux et notamment sur la page Facebook. Et j'en profite d'ailleurs pour vous signaler que notre débat prévu ce matin sur la présidentielle au Togo est tout simplement reporté à demain. Mais d'abord donc, comme tous les matins, votre rendez-vous privilégié avec la rédaction des RFI, ce sont vos questions pour mieux comprendre l'actualité. La première question de la semaine nous vient de Lubumbashi, dans l'est de la République démocratique du Congo. Bonjour Hubert.
Bonjour.
Bienvenue sur l'antenne, merci de votre fidélité. Vous avez des questions concernant la situation à Yarmouk, le plus grand camp palestinien de Syrie.
Oui, j'ai appris qu'une semaine après la prise du camp de Yarmouk par les djihadistes, les deux lignées se sont retirées. Alors je veux savoir quelle est la situation dans ce camp. Et ma deuxième question, comment l'ONU peut aider les civils qui peuvent rester dans ce camp?
Ah oui, effectivement, les djihadistes de l'organisation de l'État islamique qui a pris le contrôle de ce camp. Bonjour Tofik Benaïchouch.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Vous êtes journaliste au service international d'RFI. Avant la guerre, il y a 4 ans, Yarmouk comptait 160 000 réfugiés palestiniens. Aujourd'hui, ils ne sont plus que 18 000. Quelle est la situation sur place?
Alors, actuellement, elle est intenable. Le camp, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il est situé uniquement à 7 kilomètres du palais présidentiel syrien, donc du palais de Bachar el-Assad. Donc ça faisait de ce lieu une place éminemment stratégique. Si on la contrôle, on peut lancer des attaques contre le palais présidentiel, donc le symbole du pouvoir du régime syrien. C'est pour ça que l'État islamique a investi le camp. Aujourd'hui, il en a été chassé après bien des aventures. Pour aller très vite, 160 000 personnes habitaient ce camp, vous avez raison. Les trois quarts pour la plupart sont toujours palestiniens, parce qu'ils vont probablement revenir maintenant. Le quart qui reste sont des Syriens. Yarmouk, en fait, c'est une gigantesque protubérance de la banlieue sud de Damas. Mmh. Donc il y a une continuité territoriale, ce qui en fait encore une place stratégique pour qui veut contrôler la capitale. Alors, ce qui s'est passé, c'est que l'État islamique, en s'alliant avec Al-Nusra, qui Al-Nusra, je rappelle, est plutôt lié à Al-Qaïda.
Tout à fait. Ce sont d'ailleurs des organisations rivales.
Oui.
L'État islamique et Al-Nusra, d'ailleurs c'est surprenant cette alliance.
Oui, mais encore une fois, l'ennemi de mon ennemi est mon ami, donc il y a une alliance de circonstances. Ils ont contrôlé le camp à 90%. Les mouvements palestiniens, parce qu'il y en a plusieurs, je veux juste signaler que Hafez el-Assad, le père de l'actuel président syrien, avait créé très très vite une organisation palestinienne qui s'appelait la Saïka, qui signifie la foudre, qui était proche des idées syriennes. Mais à côté de la Saïka, il y a évidemment le FDLP, le FPLP, enfin bref, toutes les mouvances possibles palestiniennes. Elles ont décidé de s'unir pour se défendre et s'allier à l'armée syrienne. L'OLP a fait marche arrière. Au début, elle avait donné le feu vert pour cette défense. Mmh. Finalement, elle a fait marche arrière pour ne pas insulter l'avenir. Elle était incertaine du sort de la lutte. Finalement, aujourd'hui, c'est réglé. Mais pendant même le siège du camp par l'armée syrienne, c'est-à-dire il y a à peu près un an, des gens mouraient de faim et de malnutrition dans le camp.
La situation humanitaire est catastrophique.
Catastrophique. Encore aujourd'hui, tout n'est pas rentré dans l'ordre. C'est compliqué de faire parvenir des vivres et des médicaments. Il faut montrer patte blanche, évidemment. Évidemment à l'armée syrienne qui est très soupçonneuse, mais aussi à tous les mouvements qui tiennent le camp, etc. C'est assez compliqué. Juste une petite anecdote, tous les mouvements palestiniens ont fini par se battre et donc chasser l'État islamique El Nusra du camp, à l'exception d'un seul. un seul qui s'appelle Al-Aknaf Al-Maqsad, qui est un mouvement palestinien islamiste, extrémiste, et qui s'est allié avec l'État islamique.
D'accord. Que peut faire l'ONU aujourd'hui ? C'est vrai que l'ONU a tiré la sonnette d'alarme ces derniers jours.
L'ONU négocie en ce moment avec l'armée syrienne pour faire parvenir une aide le plus rapidement possible, mais les combats ont fait fuir, vous l'avez dit, les 160 000 personnes, il en restait 12 000. Aujourd'hui, à l'heure actuelle, il n'en reste que 6 000, dont 3 500 enfants qui étaient en danger. Donc ça va prendre du temps, à la fois pour satisfaire les besoins en nourriture et en santé pour les habitants du camp, ça va prendre du temps aussi pour qu'ils reviennent s'installer.
Merci Toufik.
Je vous en prie.
Merci d'être venu répondre à Hervé Hubert, plutôt, qui nous appelait de Lubumbashi. 10h16 à Paris. Vos questions 33 9 693 693 70. Question de Mohamed. Il est avec nous. Bonjour Mohamed.
Bonjour Juan. Bonjour les auditeurs de RFI.
Vous nous appelez de Maïna, c'est au Mali, et vous avez des questions sur l'Inde. L'Inde qui a choisi le Rafale, le fleuron de l'industrie militaire française.
Tout à fait. Maintenant, l'Inde veut moderniser son armée, et j'ai suivi avec attention la signature du contrat d'achat de 36 Rafales. La question est la suivante. Quelles sont les ambitions de l'Inde en matière de sécurité et de défense?
Alors le contrat n'est pas encore signé, hein, les négociations se poursuivent, notamment sur le montant de la transaction. En tout cas, c'est vrai, c'est une bonne nouvelle pour la France. New Delhi a commandé 36 Rafales. Bonjour Sébastien Farcy.
Oui, bonjour Juan, bonjour à tous et bonjour à Mohamed.
Vous êtes le correspondant des RFI en Inde. Mohamed le disait à l'instant, il y a un réel besoin de moderniser les forces armées indiennes. Il faut quand même rappeler que c'est le Premier ministre indien qui a passé cette commande lors de sa visite en France il y a à peine 10 jours.
Oui, en effet, cela, en fait, cette annonce qui était assez surprenante, on va dire, marque l'épilogue d'un long feuilleton qui, en tout et pour tout, a commencé il y a 8 ans, quand l'Inde a commencé son appel d'offres sur cet énorme achat d'avions, cet énorme contrat, le contrat du siècle, comme on l'appelait, sur 126 avions de chasse. Et depuis 3 ans, eh bien, c'est le Rafale qui avait été pré-choisi, qui avait été choisi, et puis par l'armée de l'air indienne, qui en avait fait, en fait, son favori avec un autre avion, donc, européen, mais celui-là était moins cher. On considérait le Rafale comme moins cher, donc depuis 3 ans, on négociait, et dans la négociation, il était prévu que la France fournisse 18 avions, Dassault fournisse 18 avions prêts à voler et 108 autres sur les 126 devaient être fabriqués en Inde grâce à tout un processus de transfert de technologie. Mais voilà, ce processus assez compliqué a fait traîner énormément les discussions. Depuis 3 ans, on était carrément bloqué sur plusieurs points, sur les transferts de technologie, sur la responsabilité de Dassault face à ces avions qui devaient être fabriqués en Inde. Et donc voilà, donc en fait on n'en est pas plus loin, l'armée de l'air a extrêmement besoin de ces avions, donc il semble que Narendra Modi a pris une décision en fait surprenante qui est de d'acheter directement ces 36 avions, eh bien sans être fabriqués en Inde, sans transfert de technologie, on achète directement ces avions prêts à voler assez rapidement.
Pourquoi l'Inde veut-elle à ce point renforcer sa capacité militaire? Quels sont les enjeux?
Eh bien, les enjeux, enfin, l'Inde se trouve dans une zone qui est assez tendue, une zone pas conflictuelle, mais en tout cas une forte tension. Il y a la Chine d'un côté, le Pakistan de l'autre. Le Pakistan, le frère ennemi traditionnel, qui en fait continue à, en tout cas des groupes extrémistes qui continuent à revendiquer le Cachemire, l'armée indienne impliquée dans beaucoup de financement de militants extrémistes. Mais il semble que c'est vraiment la Chine qui est aujourd'hui l'ennemi, en tout cas l'opposant de militaire le plus menaçant, le plus craint, la Chine qui aussi réclame des terres à 2 endroits à la frontière. Donc on se retrouve face à une menace, et donc l'armée de l'air dit clairement qu'elle n'a plus les moyens de défendre ses frontières aériennes. On en est à aujourd'hui 34 escadrons, c'est-à-dire un escadron c'est 18 avions, donc on en est une centaine d'avions en moins par rapport à ce que voudrait l'armée de l'air pour défendre ses frontières. Donc on est dans un triangle d'instabilité assez tendu, et c'est pour ça que l'armée de l'air fait pression sur le gouvernement pour avoir les meilleures armes, certes très cher, et c'est là tout le débat aujourd'hui qui est posé, c'est qu'on considère que ce contrat était trop cher, alors qu'on pouvait acheter des armes russes, des avions russes, et que en plus, eh bien, on passe outre ce transfert de technologie que l'Inde, dont l'Inde aurait pu bénéficier vraiment pour, eh bien, construire ses propres armes dans le futur, car il faut savoir que l'Inde aujourd'hui est le premier importateur d'armes au monde, avec l'Arabie Saoudite, et que cela n'est pas prêt de se terminer, ces importations ne sont pas prêtes de se terminer, eh bien, s'il n'y a pas de transfert de technologie, s'il n'y a pas la naissance d'une vraie industrie d'armement en Inde.
Merci beaucoup d'avoir été avec nous, Sébastien Farsi. Mohamed, on vous souhaite une bonne journée à Naïna, où vous écoutez RFI. Naïna, c'est à 250 km au nord-ouest de Bamako, au Mali. 33 9 693 693 70. N'oubliez pas, dans 20 minutes maintenant, vos réactions. Après cette nouvelle tragédie en Méditerranée, près de 700 migrants auraient perdu la vie dans la nuit de samedi à dimanche. Comment endiguer l'immigration clandestine? Comment éviter de nouvelles tragédies? Quelle doit être la réponse de l'Europe? L'Europe qui envisage d'ailleurs d'organiser au plus vite un sommet extraordinaire sur la question. On vous attend évidemment au standard. Bonjour Stéphanie Schuller.
Bonjour Juan,
merci
bonjour à tous.
D'être avec nous Stéphanie, journaliste au service international d'RFI. On a reçu plusieurs questions après. Enfin, j'ai envie de dire la fin du faux suspense, la candidature d'Hillary Clinton à la Maison Blanche. Grogui, bonjour.
Bonjour, Juan Gomez. Bonjour à tous.
Vous nous appelez d'Abidjan. On vous écoute.
Alors, après de longs mois de suspense, la première dame Hillary Clinton finalement a officialisé sa candidature à la présidence des États-Unis. Tenez pour la défense des classes moyennes.
Oui.
À ce sujet, je voudrais savoir quels enjeux représentent ces classes moyennes pour l'élection présidentielle.
Alors, on va déjà répondre à cette première question. Je sais que vous en avez d'autres, mais on va régler hors antenne la liaison téléphone. Stéphanie Schuller, les Américains ordinaires ont besoin d'un champion. Je veux être cette championne, déclarait donc il y a 10 jours Hillary Clinton dans cette vidéo qui officialisait la candidature. C'est vrai, Stéphanie, on parle souvent de cette classe moyenne américaine. Elle représente qui, en fait?
Bah, c'est une excellente question, Juan. Alors, si on se réfère au salaire, le revenu moyen d'une famille américaine s'élève à environ 50 000 $ par. Alors, le Pew Research Center, c'est un institut de sondage indépendant américain, eh bien, il définit comme classe moyenne tous les ménages qui gagnent entre 75 et 150% de ce revenu, c'est-à-dire entre 37 et 75 000 dollars par an.
Et ça représente combien de personnes?
8 Américains sur 10, ça fait donc beaucoup de monde, hein, mais il faut quand même différencier ces chiffres, Juan, parce que pour les Américains, il existe 3 catégories de classe moyenne. Premièrement, ce qu'ils appellent la upper middle class, ce sont des familles plutôt aisée. Deuxièmement, la classe moyenne au sens classique du terme. Et enfin, la under middle class, ce sont ces travailleurs pauvres, des gens qui, même en ayant un emploi, ont beaucoup de mal à joindre les deux bouts. Or, aujourd'hui, presque un Américain sur 3 estime appartenir à cette frange de la population. Oui. Et il n'était qu'un sur 4 il y a encore 7 ans.
Mais qu'est-ce qui explique cet appauvrissement de la classe moyenne?
On en a souvent parlé, Juan. La crise immobilière, notamment de 2007 et 2008, pendant laquelle les familles américaines de la classe moyenne ont perdu jusqu'à 40% de leur fortune personnelle. Parce qu'aux États-Unis, il faut savoir, la possession d'une maison représente une grande partie des biens d'un ménage. Puis, la crise économique qui a suivi la crise immobilière a condamné beaucoup de salariés au chômage. Même si depuis, on le sait, l'économie a redémarré aux États-Unis et que nombreux d'entre eux ont pu retrouver un emploi, cet emploi est souvent moins bien payé que celui qu'ils occupaient avant la crise. Donc, il reste aujourd'hui aux États-Unis une classe moyenne profondément déstabilisée qui a peur de tomber dans la pauvreté et qui est inquiète pour l'avenir de ses enfants.
Une classe moyenne donc qui souffre des inégalités et qui ne semble pas donc bénéficier de la croissance. C'est vrai que le chômage n'a jamais été aussi bas aux États-Unis. Il est sous la barre des 6%. C'est le taux d'avant la crise. Malheureusement, la liaison avec Grogui, c'est vraiment trop mauvaise pour le passer à l'antenne. Mais il souhaitait vous demander, Stéphanie Schuller, si le soutien de Barack Obama était un atout déterminant pour Hillary Clinton?
Bah oui et non, parce que le soutien du président sortant est, si vous voulez, est à double tranchant pour Hillary Clinton, je dirais. D'un côté, la candidate a besoin de se démarquer du lui. Le camp républicain, vous savez, tire déjà à boulet rouge sur l'ex-secrétaire d'État en clamant « L'Amérique n'a pas besoin d'un troisième mandat Obama » ou encore « L'Amérique mérite mieux qu'un troisième mandat de politique Obama-Clinton ». Mais de l'autre côté, Hillary Clinton doit faire très attention à ne pas paraître trop trop distante avec l'actuel président, puisqu'elle dépend de l'électorat qui a permis à Barack Obama de remporter les élections présidentielles en 2008 et 2012. Hillary Clinton a une chance de devenir peut-être la prochaine locataire de la Maison Blanche, mais seulement si les jeunes, les femmes, les latinos et les afro-américains se mobilisent aussi massivement que lors de ces dernières deux scrutins présidentiels.
En tout cas, pour l'instant, il faut déjà qu'elle remporte l'investiture démocrate, évidemment.
Tout à fait, oui, tout à fait. Et pour l'instant, ce n'est pas encore fait. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle Barack Obama a certes dit qu'Hillary Clinton ferait une excellente présidente, mais il ne lui a pas encore apporté son soutien officiel. Le président souhaite d'abord attendre pour voir qui seront les autres candidats qui se lanceront peut-être dans la course pour devenir le champion ou alors la championne du Parti démocrate pour la présidentielle de 2016.
Le feuilleton est donc loin d'être terminé.
Absolument.
Autre question, Teddy, bonjour.
Bonjour.
Bienvenue, on vous écoute, Teddy.
Oui, je suis aussi intéressé par la politique américaine et j'ai deux questions. Mmh. La première, c'est quels sont les atouts d'Hillary Clinton et quel rôle peut jouer son mari Bill Clinton dans sa campagne?
Alors, pour gagner Hillary Clinton, évidemment, Stéphanie dispose de plusieurs atouts et pas les moindres.
Ouais, tout d'abord, bien évidemment, sa notoriété, Teddy. Elle est l'une des personnalités les plus populaires aux États-Unis. Surtout son passage, d'ailleurs, au département d'État lors du premier mandat de Barack Obama lui a valu beaucoup d'opinions favorables. Sur ce poste, elle a aussi, on imagine, acquis une expérience précieuse sur la scène internationale et une connaissance solide des grands dossiers géopolitiques. Un atout de taille, bien évidemment, dans un monde qui est de plus en plus secouée par de multiples crises sécuritaires. On pense par exemple à la déstabilisation du Moyen-Orient par l'organisation de l'État islamique ou encore la guerre en Ukraine et l'attitude de la Russie.
Et elle a également des atouts pour son action sur la scène nationale.
Hillary Clinton a la réputation d'être très fidèle à ses valeurs politiques, ce qui la rend lisible et par le même coup rassurante, si vous voulez, pour les électeurs. Quand elle a décidé de briguer l'investiture démocrate pour l'élection présidentielle, elle savait en plus très bien où elle mettait les pieds. Elle a déjà l'expérience de la rude bataille des primaires. Et
elle a tiré les leçons de 2008.
Exactement, parce qu'elle a mené cette bataille à sa perte, on s'en souvient, en 2008 contre Barack Obama. Mais ça veut dire aussi qu'elle a les réseaux de soutien, y compris financiers, qui sont déjà dans les starting blocks pour se lancer dans la campagne. Tout cela fait d'Hillary Clinton, qui veut devenir la première présidente des États-Unis, une concurrente tout à fait redoutable.
Teddy, vous demandez quel rôle pourrait jouer Bill Clinton durant la campagne électorale.
Alors, cette question doit déjà donner du fil à retordre aux stratèges de la campagne Clinton.
Bah, il est très populaire, quand même.
Justement, parce que tout le monde sait que Bill Clinton est un orateur inné. Il tient sa salle dès qu'il arrive sur scène. Il galvanise vraiment les foules. Il jouit toujours, comme vous le dites, une immense popularité aux États-Unis et voudrait bien sûr aider sa femme à remporter d'abord l'investiture démocrate et ensuite la présidentielle. Mais attention, se disent les conseillers d'Hillary, il ne faut pas non plus que le chaleureux ex-président fasse de l'ombre à son épouse, qui a le contact un peu moins facile avec les gens que son mari. Et c'est la raison d'ailleurs pour laquelle la candidate a pris seule la route ces derniers jours, direction les États comme l'Iowa, où se tiendront les premières primaires début 2016 pour se montrer proche des électeurs et de leurs préoccupations. Alors, dans un premier temps, Bill Clinton pourra donc agir surtout à l'intérieur du Parti démocrate et auprès des riches donateurs en faveur de sa femme. Mais à vrai dire, Juan, connaissant la passion de Bill Clinton pour le jeu politique, personne ne croit vraiment qu'il restera longtemps cloîtré en coulisses. Et à Washington, figurez-vous, certains commencent déjà à spéculer quel pourrait être le rôle de Bill si jamais sa femme était élue à la Maison Blanche.
On le verrait peut-être dans la nouvelle administration américaine.
Ah, peut-être, on sait pas.
C'est ce qui circule comme rumeur déjà. Stéphanie, on avait prévu d'autres questions. Malheureusement, regardez la pendule, on est obligé de rendre l'antenne. Mais non, mais vous n'avez pas été désolé, on a pris le temps et on est là pour ça. On prend le temps pour expliquer l'actualité. Teddy, on vous rappellera. En tout cas, merci de nous avoir contactés de Brazzaville. On vous souhaite une belle journée. À bientôt, Stéphanie Schuller.
Avec plaisir.
Dans un instant, le point complet sur l'actualité. Et n'oubliez pas, dans 10 minutes maintenant, notre débat du jour. On va revenir sur cette nouvelle tragédie en Méditerranée. Près de 700 migrants auraient perdu la vie dans la nuit de samedi à dimanche. Certaines sources parlent même de 900 morts lors de cette tragédie. Pour l'instant, le bilan officiel est de 24 rescapés. 33 9 693 693 70.
Retrouvez Appel sur l'actualité avec Orange Monnaie après le flash info.